je vous propose d'entendre dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 2, qui met aussi en perspective les différentes dimensions de l'existence humaine, afin de nous ouvrir à cette présence de Dieu dans notre existence. Parole reçue en vision par Ésaïe, le fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons ensemble à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses sentiers et que nous marchions dans ses chemins. Car de Sion sortira la parole, et de Jérusalem viendra la parole de l'Éternel. Il sera le gouverneur entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. Et enfin, de leurs épées, ils forgeront des charrues, et de leurs lances, ils feront des serpes. Une nation ne se lèvera plus, ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'il est rempli des pratiques de l'Orient, de la magie comme les Philistins, et parce qu'il s'accorde avec les fils étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, infinis sont ses trésors, son pays est rempli de chevaux, infini le nombre de ses chars. Son pays est rempli de faux dieux, on se prosterne devant l'ouvrage de ses mains, devant ce que ses doigts ont fabriqué. L'être humain en est tout courbé, l'homme est abaissé. Il entre dans les fentes des rochers, il se cache dans la poussière, loin de l'Éternel, loin de l'éclat de sa majesté. Les regards arrogants de l'être humain sont abaissés et l'orgueil des hommes est courbé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là, car l'Éternel des puissances a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre tout ce qui s'élève et qui sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre les murailles fortifiées, contre les navires de Tarsis, contre les objets de désir, l'arrogance de l'être humain sera courbée, abaissé sera l'orgueil des hommes. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, loin de la présence de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour gouverner la terre. En ce jour-là, l'être humain jettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or qu'il s'était fait pour se prosterner devant eux. Il les jettera aux rats et aux chauves-souris. On entrera dans les fentes des rochers et dans les creux des rocs, loin de la puissance de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour gouverner la terre. Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Évangile selon Jean au chapitre 3. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Il arrivera, nous dit Ésaïe, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alors si on regarde de près cette histoire de montagne que nous propose Ésaïe, on se demande bien comment une montagne peut être déposée, fondée sur le sommet des autres montagnes. Mais on comprend vite, bien sûr, avec la suite de la prédication d'Ésaïe, qu'il se sert de cette curieuse image pour réfléchir sur l'existence humaine. Ésaïe nous appelle à rentrer au plus profond de notre être, afin de prendre conscience de quoi sont faites en réalité notre nature, notre espérance et notre vie. Et pour nous faire réfléchir à cela, Ésaïe compare l'être humain à un paysage tout entier de montagnes et de collines. Ce n'est pas seulement l'humanité qui est comme un paysage divers, mais c'est chaque être humain individuel, chaque personne qui est un être complexe, riche de multiples dimensions qui sont vraiment élevées. C'est très bien. Mais Ésaïe nous dit que ce pays que nous sommes trouve sa véritable dimension quand la montagne de l'Éternel est fondée sur le sommet de toutes ces montagnes. Alors cette image est un peu surréaliste, mais elle est, je crois, bien intéressante, bien parlante, pour nous dire la place que la foi, la présence de Dieu, doit avoir dans notre existence. La montagne de l'Éternel ne supprime pas les autres sommets de notre existence. Et donc la foi ne nous appelle pas à nous détourner de ce monde, pour être seulement en prière, pour devenir de purs esprits. Elle ne nous appelle pas à mépriser les autres dimensions de notre être. Au contraire, la Bible nous appelle à aimer ce monde où nous sommes, ce monde dont nous faisons partie et ce monde que Dieu aime, nous dit Jésus-Christ. Il nous appelle à y agir et il nous appelle à nous épanouir dans les différentes dimensions de notre être. Cette montagne de l'Éternel, elle n'a pas non plus pour vocation à être la plus haute de toutes les montagnes de notre existence, comme si notre relation à Dieu n'était qu'une activité supplémentaire, un peu plus noble que les autres peut-être, mais une dimension supplémentaire dans notre existence, en parallèle avec les autres. Non, l'Éternel fonde sa montagne sur le sommet de toutes les autres, sans les écraser, mais en les rendant toutes plus vivantes, plus élevées, et puis unifiées dans cette aspiration commune, dans cette élévation commune. C'est un peu, je crois, comme l'affection que l'on peut avoir, par exemple, en famille. Eh bien, cette affection, ça rend tout plus beau. On ne cesse pas peut-être de faire la vaisselle ou de faire autre chose, mais les petites choses quotidiennes et les grandes joies sont transformés par l'affection qu'il peut y avoir en famille. Cela féconde les vieux souvenirs et cela féconde les projets d'avenir. Et cela nous soutient quand arrive une catastrophe. Eh bien, la dynamique d'évolution qu'est Dieu, elle a ainsi pour vocation de prendre place en nous au-dessus de toutes les autres dimensions de notre existence. Nous pouvons et nous devons même rechercher à développer en nous, comme autour de nous, la santé, l'intelligence, la culture, les dons artistiques, les relations harmonieuses entre nous, nos moyens d'action dans ce monde, bien sûr. Cet ensemble de montagnes variées constitue un premier étage qui participe à l'élévation de l'homme. Mais il y a un second étage possible, nous dit Ésaïe, constitué par une montagne qui unifie toutes les autres, c'est celle de la présence de l'Éternel. Nous pourrions espérer que la sagesse, par exemple, puisse jouer ce rôle d'unification de la personne. Mais la sagesse n'est au mieux qu'une montagne plus élevée que les autres. Elle reste quand même sur le même plan, à côté des autres, alors que Dieu est d'un autre ordre. Il est le seul incréé et il est la source de tout le reste, donc la source de tout ce qui est de bon et de vivant. C'est pour ça que seule la présence de l'Éternel est une montagne qui peut être fondée sur le sommet des autres montagnes et unifiée de haut, finalement, toutes ces perspectives parallèles et par conséquent qui ne peuvent pas par elles-mêmes s'unir. Cette conception de l'homme que nous propose Ésaïe est également celle de Jésus, je le crois, dans sa conversation avec Nicodème, quand il parle d'une nouvelle naissance en plus de celle que nous avons vécue en sortant du ventre de notre mère. Jésus ne méprise pas la dimension charnelle de notre existence, comme il le dit dans cette phrase qui est à juste titre la plus connue de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu aime ce monde dans lequel nous vivons. Dieu aime ce monde dont nous sommes faits. Dieu aime la nature qui est la nôtre, cette dimension charnelle, intellectuelle, sensible, relationnelle, sociale, qui tisse le premier niveau de notre existence, de nos familles, de notre société. C'est parce qu'il nous aime ainsi fait, ainsi construit, qu'il nous choisit comme fondation de cette nouvelle étape de sa création qu'il donne en Christ. Et ce qu'il réalise là, en Christ, est l'accomplissement de ce qui était annoncé par les prophètes, en particulier par Ésaïe avec son histoire de montagnes empilées les unes sur les autres. Et ce qu'annonçait bien sûr avant lui aussi le livre de la Genèse quand il dit « Dieu forme d'abord l'humain de la poussière de la terre, ensuite il souffle dans ses narines un souffle de vie ». Alors comment aimerons-nous à notre tour l'humain, la personne humaine que nous sommes, mais aussi la personne humaine qu'est notre prochain, et puis l'humanité en tant qu'ensemble? Eh bien, nous l'aimerons à l'image de cet amour qu'a Dieu, en considérant l'humain comme une réalité complexe, composée idéalement de multiples dimensions, réconciliées et vivifiées, transformées par la présence de Dieu qui vient s'établir sur le sommet des autres dimensions. Et donc, comme chrétiens, nous n'avons pas, par exemple, à choisir entre l'annonce de l'Évangile et l'action humanitaire. Les deux sont à faire, puisque l'humain est formé de multiples dimensions sur ces deux niveaux, sur le niveau terrestre et sur ce niveau supérieur qui est celui du spirituel. Aimer son prochain, c'est se préoccuper de son bien-être dans les deux niveaux. Le servir, c'est l'aider à se développer charnellement, socialement, intellectuellement, etc. Mais aussi spirituellement, le service comprend ces deux dimensions. C'est ainsi que Jésus agissait. Bien sûr, sa mission fondamentale est de porter l'Évangile à toute personne qu'il rencontre, au monde entier ensuite, par le biais de ses apôtres qu'il envoie porter l'Évangile. Mais le cas échéant, Jésus aide aussi son prochain en soignant son corps. C'est vrai que Jésus ne le fait qu'en passant et souvent comme gêné de le faire, mais il le fait quand même, quand c'est nécessaire. Le spirituel reste sa priorité afin que l'humain puisse s'ouvrir et recevoir l'Esprit de Dieu, puisque c'est cela qui est, la clé, la source qui va donner vie à tout le reste. C'est pour que l'homme naisse dans cette dimension spirituelle que Dieu donne son Fils, nous dit-il. C'est pour que la montagne de la présence de Dieu puisse être fondée au-dessus de nos montagnes terrestres qu'Ésaïe parle. Et donc, pour Jésus et pour chacun de nous, jamais notre service de l'autre en tant que chrétien ne cessera de se soucier de notre prochain sur le plan spirituel. Au contraire, plus l'homme est en souffrance dans sa chair, et moins cette immense dignité spirituelle de l'homme devra être oubliée. Plus l'homme est en souffrance dans sa vie terrestre, plus il a des difficultés, du désespoir, plus il y a de l'injustice et des guerres, nous dit Ésaïe, et plus il nous faut revenir à cette essentielle ouverture à la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui peut gouverner notre nature terrestre, c'est lui qui peut insuffler en elle son esprit de paix et de vie. Et donc avec cette histoire de montagnes empilées, Ésaïe nous aide à nous poser cette question. Est-ce que, oui ou non, la montagne de la présence de Dieu est bien présente au-dessus de toutes nos montagnes? Est-ce que notre foi en Dieu oriente nos actions, change nos agendas, transforme notre système de valeurs? Alors bien sûr, la réponse est entre oui et non à chaque fois. Et c'est pourquoi il est utile qu'Ésaïe poursuive alors, avec une notion plus dynamique de notre existence, la comparant non plus à un paysage figé de montagnes empilées, mais à un cheminement. La question de l'objectif, de l'idéal humain ayant été posée avec cette histoire de montagne sur deux niveaux, Ésaïe nous aide à nous poser cette question pour nous-mêmes et pour ceux que nous avons aidés, que nous aimons. Sommes-nous en marche vers le haut ou sommes-nous en train, comme il nous le dit, de creuser le sol pour nous enfoncer encore plus dans notre nature terrestre ? Ésaïe nous montre ensuite ce qui peut empêcher Dieu de fonder sa montagne en nous et ce qui peut nous provoquer, c'est provoquer en nous cette soif de creuser la montagne, de nous enfoncer. Ésaïe reproche à la maison de Jacob d'être pleine de trésors sans fin, remplis de chevaux et de chars sans nombre. Le problème, bien sûr, n'est pas d'avoir des trésors, des chevaux et des chars, car ce sont des moyens matériels qui peuvent être utiles pour faire de belles choses. Ils sont finalement comme des parties de ce paysage infini de montagnes et de collines qui tissent notre dimension terrestre et nos moyens d'action dans ce monde. Mais il y a deux problèmes dans cette description du peuple, de l'humanité pécheresse, selon Ésaïe. Le premier problème, c'est d'abord d'être plein comme un œuf, car alors il n'y a pas de croissance possible, il n'y a pas de cheminement possible. Pour progresser, il faut enlever certaines choses pour faire de la place vers des choses plus importantes, en particulier pour l'Esprit de Dieu, bien sûr. Il ne s'agit pas de supprimer finalement les moyens matériels qui sont fort utiles, mais de faire de l'espace. Le second problème, je crois, c'est d'être plein de la seule dimension terrestre de notre être. Il ne s'agit pas, là encore, de supprimer ces moyens matériels utiles. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir dans les domaines appartenant au monde terrestre, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter une dimension spirituelle supplémentaire en plus de ces dimensions terrestres. Mais ce qui est proposé, c'est de donner du sens à tous ces éléments grâce à une relation saine avec Dieu. Alors, nos moyens matériels, nos trésors, nos chars, nos chevaux, nos actions de service de l'autre aussi, serviront à produire de belles et de bonnes choses, en particulier de la paix, nous dit Ésaïe, de saines relations avec Dieu et avec les autres. Alors bien sûr, nous aimerions que le monde où nous sommes soit plus juste, que la vie soit plus belle, pour nous bien sûr, d'abord, on est souvent comme ça, mais aussi pour ceux que nous aimons et qui sont autour de nous. Alors nous avons envie de dire à Dieu, qu'attends-tu pour établir la paix dans le monde, pour que tout aille mieux, que les choses s'arrangent. Eh bien, Ésaïe nous dit que c'est chacun de nous qui l'attend. Et voilà le programme qu'il nous propose face au désordre du monde. Commence, toi, par monter sur la montagne de l'Éternel. Ou plutôt, nous dit-il, mettons-nous ensemble en route vers la montagne de l'Éternel. Et puis, appelons les autres à nous rejoindre dans cet élan vers ce Dieu qui est source d'élévation, de vie et de paix pour nous tous. Crions ensemble, allons et montons à la montagne de l'Éternel. Mais aujourd'hui, comme au temps d'Ésaïe, il arrive à l'homme de se limiter à la seule dimension terrestre de notre nature. Notre vie, notre espérance, notre service de l'autre sont alors comme courbés vers le sol, recroquevillés sur cette dimension terrestre. Oublier la dimension spirituelle enfonce l'homme et celui que l'on veut aider dans la poussière dont il est fait. Et quelle valeur reste-t-il alors à l'homme, nous demande tragiquement Ésaïe. Même alors, nous dit-il, l'homme a une infinie valeur, car il est au moins un tout petit peu habité d'un souffle qui a une infinie valeur, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ce souffle que nous avons au moins un petit peu, ce souffle, il fait de nous un prophète, à la suite d'Ésaïe, un prophète pour dire à l'homme sa dignité, pour dire à l'homme cette immense source de réconciliation qu'est Dieu, capable de rassembler, d'unifier toutes les montagnes de notre être, rassemblant aussi les hommes en un même corps, transformant les épées meurtrières en charrues, transformant les lances qui tuent en serpes pour moissonner le blé. Mais si les Ésaïes que nous sommes se taisent, qui criera dans le monde l'appel et la promesse de Dieu? Si les Jean-Baptiste n'annoncent plus la grâce de Dieu, qui le fera? Les athées? Les ONG? Le Fonds monétaire international? Les hôpitaux? Qui dira à ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne s'en croient pas dignes que Dieu rêve de nous donner son esprit, sa présence infinie, sa présence créatrice pour faire de nous son enfant, pour faire un être à son image, capable de créer de la vie, créer du bon, pour ordonner le chaos de notre monde, le chaos qui nous habite et qui nous fait souffrir, et pour nous donner ainsi la vie éternelle, la vie bonne, la vie vraie. Et ce n'est pas parce qu'il nous demande, il nous le demande, que nous annoncerons l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'il nous envoie, mais parce que c'est utile et bon. Parce que, comme lui, nous aimons ce monde où nous sommes. Parce que nous aimons cette personne qui est à nos côtés, que nous reconnaissons en lui, en elle, un frère, une sœur digne de vie. Que nous reconnaissons en elle une merveille qu'on ne peut pas ne pas aimer. Que nous ne pouvons pas laisser souffrir et mourir encore, alors qu'elle peut recevoir la vie éternelle par l'Esprit Saint. En vérité, nous dit Jésus, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a là quelque chose de tragique, bien sûr. Ce royaume, ce n'est pas un lieu dans lequel nous aurions le droit d'entrer si nous sommes bien sages et que Dieu nous donne un ticket d'entrée pour le paradis. Ce que Jésus nous offre, c'est que Dieu puisse régner sur notre existence. C'est un service pour aujourd'hui et maintenant. Ce que nous propose Jésus, c'est de reconnaître à Dieu le droit d'agir en nous pour nous créer. C'est cela, nous ouvrir à Dieu par l'eau et par l'esprit. Pour cela, Jésus nous indique une double démarche qui est en fait une simple question de bon sens. Comme on dirait que pour se nourrir, il faut remarquer que l'on a faim et ensuite manger ce que l'on a sur la table en face de soi. Jésus nous propose de naître d'eau et d'esprit. L'eau nous appelle que sans cesse, nous avons besoin de revenir à Dieu pour qu'il nous purifie, qu'il nous aide à reconnaître nos manques, mais aussi la merveille que nous sommes, qu'il nous aide à reconnaître, à discerner en nous nos vallées et nos sommets, notre foi, mais aussi ce qui reste d'idolâtrie et d'athéisme dans notre façon d'être. Il y a là déjà une naissance. L'Esprit évoque l'action de Dieu en nous, réconciliant toutes nos bonnes dimensions en un être, enfin à son image et à sa ressemblance, capable d'aimer et de créer, capable de donner la vie. Heureux ceux qui demandent à Dieu son Esprit, car le royaume de Dieu est à eux, dès maintenant et pour toujours. Amen.